Ça va mieux.
Jacques Lavergne.
Jean-François Mignard. Bonjour.
Bonjour.
Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue sur Esprit Occitanie, ravi de vous retrouver, de retrouver Jean-François.
Ravi également, Jacques.
Et on a failli retrouver Pierre Larouille, mais qui, au dernier moment, nous a fait faux bond.
C'est un rendez-vous manqué dont nous avons du mal à nous remettre.
Mais on va essayer quand même de faire comme s'il était là. Voilà, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? De sujets qui sont en plein au cœur de l'actualité. Bien sûr, la situation politique française. Et l'Europe et le rapport Draghi. Voilà, c'est, ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie. La radio web, alors la citation hein, traditionnelle, « L'imagination du peuple se fera un préjugé de la liberté, l'illusion sera une patrie. »
Dia, ça doit être quelqu'un de très éclairé, j'imagine.
On peut le dire comme ça, qui a mal fini, qui a fini en deux morceaux, c'est Saint-Just.
Ah, voilà, voilà. C'était, hein, c'était l'époque des Lumières qui s'obscurcissait pour certains.
Voilà, oui, oui, là, le rideau est tombé, malheureusement, et plus que le rideau. Alors, quelques chiffres, et on va y revenir tout à l'heure, vous l'avez compris dans la deuxième partie. Depuis 1995, le PIB américain a augmenté de 102,5% contre 52,5% en Europe. La croissance américaine a réalisé une performance annuelle de 2,4%. Et en Europe, on a péniblement frôlé 1,4%. Le dollar, depuis 2008, a vu sa valeur progresser de 35% par rapport à l'euro. La productivité en France comme en Allemagne a baissé de 7% en 20 ans. Et, chiffre de la Banque mondiale, l'écart du revenu par citoyen, du revenu brut, hein, par citoyen entre Européens et Américains, est passé de 12 000 à 37 000 dollars en un demi-siècle. Autrement dit, l'appauvrissement des Européens par rapport aux Américains ne cesse d'augmenter. On y reviendra tout à l'heure quand nous parlerons de ce que j'annonçais à l'instant, le rapport Draghi. Mais nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire la situation politique française. Alors, Winston Churchill hein, le disait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Une phrase qu'Emmanuel Macron a dû faire sienne, car il ne manque pas d'enthousiasme, on le voit tous les jours, et il possède une solide collection d'échecs. Néanmoins, il poursuit comme si de rien n'était sa politique, comme s'il était seul, comme s'il n'existait ni parlement, ni parti politique, ni corps électoral, ni volonté exprimée par celui-ci. Pendant des semaines, feignant d'atermoyer, il a usé et baladé le personnel politique et les Français après une élection où son camp s'est pris une gigantesque claque. Un seul but, conserver à tout prix le pouvoir et ne tirer aucun enseignement de la volonté des urnes. Jouer les uns contre les autres, diviser pour mieux régner et après avoir organisé le chaos, paraître comme le sauveur qui va réparer les dégâts. Il faut quand même une bonne dose de kilos et un phénoménal hubris pour manœuvrer ainsi, mais le garçon ne manque ni de l'un ni de l'autre. Ainsi, après avoir joué pendant des semaines au chat et la souris, poussé l'exaspération de tous à son maximum, il a consenti à nommer un Premier ministre. Il l'a choisi dans un parti droitier, les Républicains, qui ne représente même pas 10% des députés à l'Assemblée, un parti bien mal en point, et c'est un euphémisme. Alors même que les électeurs avaient assez nettement désigné la gauche pour remplir cette fonction. Autant dire que Michel Barnier, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne dispose d'aucune légitimité politique. Et qu'ainsi Macron espère bien garder la main et avoir barre sur son nouveau chef de gouvernement. On lui a d'ailleurs, vous savez de qui je parle, on lui a d'ailleurs désigné son directeur de cabinet, ce qui n'est pas forcément le meilleur signe qui soit. Mais ce n'est pas sûr que cela fonctionne. L'avenir nous dira si M. Barnier a du caractère et de la dignité. La gauche, dans son ensemble, a regardé passer le train, poussant des cris d'orfraie, en criant au vol des élections et en se faisant rouler dans la farine, qu'elle a d'ailleurs payé comme le cocu qui règle la chambre. Le pitoyable stratégie organisée avec le brio que l'on lui connaît par le sur Mélenchon, épaulé par Faure, son valet du PS, qui a été même jusqu'à faire huer le nom de Cazeneuve, potentiel premier ministrable de gauche. Tout a été fait pour se rendre indésirable, tout en revendiquant haut et fort le pouvoir, mais en faisant tout pour ne pas se le voir confier. Certains députés du Parti socialiste oublient au passage qu'ils ont été élus grâce au Front républicain, constitué face au Rassemblement national et donc au moyen de votes d'électeurs de droite. Le pays ressort fragilisé de cet épisode politique désastreux, avec des finances en lambeaux, des chantiers urgents au point mort, et bien sûr une politique écologique toujours aux abonnés absents au moment où la planète flambe littéralement. Sans oublier une guerre aux portes et des tensions géopolitiques préoccupantes. La voix de la France continue d'être inaudible au plan international et européen, et on vient de le voir avec la récente nomination du commissaire européen censé remplacer celui que la présidente ne voulait plus. Et force est de constater, comme d'autres pays européens d'ailleurs, des gains de productivité quasi nuls, contrairement aux États-Unis, nous privant ainsi de manœuvres financières. Le président Macron a encore une fois démontré qu'il n'était pas un démocrate et n'avait que bien peu de qualités pour diriger un grand pays, mais qu'il ignorait encore. C'est un petit manœuvrier orgueilleux et arrogant, sans envergure, sans programme ni vision pour la France, qui l'a contribué à affaiblir considérablement depuis 7 ans, nous le constatons aujourd'hui. Tout en faisant le lit de la droite extrême, devenue à présent l'arbitre de la vie politique. Pas très glorieux comme résultat. Et l'on peut penser que désespérer l'électeur n'aura qu'un effet, faire bondir le taux d'abstention aux prochaines consultations. Un monde nouveau nous avait-il promis ? Nous avons eu l'ancien, mais en pire. Oui. Jean-François, alors tel était mon point de vue, donc, qui n'était que le dernier édito que j'ai commis sur cette antenne et qui est en ligne sur le site, bien sûr. Mais j'imagine, Jean-François, que vous avez peut-être une façon différente d'aborder la chose.
Je partage pas tout le détail, mais sur la tonalité générale, qui est comment dire, tout sauf optimiste. On va manier la litote pour essayer de pas trop s'enfoncer, mais je partage effectivement cette tonalité-là et avec l'idée que ce qui se passe en ce moment est un pas de plus dans une crise forte du politique dans laquelle nous nous enfonçons et dans lequel nous nous enfonçons sous la baguette de notre président de la République qui s'avère, pour ceux qui en étaient encore naïvement pas convaincus, d'un cynisme absolu. On a un hold-up, j'ai envie de dire, on a un hold-up électoral. Si on en reste à la dimension purement électorale, en gros, à l'heure où on est en train de parler pour cette émission, on a quelques éléments concernant le nouveau gouvernement Barnier. Il reflète à peu près en rien les rapports de force à l'échelle du pays, que ce soit en termes électoraux, c'est-à-dire au nombre, quand on regarde le nombre de voix, et que ce soit à l'échelle, certainement, au-delà des élections, de la sensibilité qu'il peut y avoir dans le pays. On continue à vivre avec une séparation grandissante. Alors, je vais utiliser des termes qui sont utilisés par d'autres pour des raisons que je ne partage pas, mais entre un pays entre guillemets réel et les élites, alors là aussi entre guillemets, ou du moins les représentants que nous avons. Moi, je suis personnellement, j'ai passé les Jeux Olympiques et toutes les palidonies qu'on nous a imposées pour éviter d'avancer au plan politique. Moi, cet été, J'ai quand même été absolument subjugué par, et je ne suis pas le seul, par ce qui est en train de se passer. Voilà. Ça vient, cette séquence, quand même, rappelons-le, vient après une mobilisation d'une partie du pays contre le risque lié à l'extrême droite. Ce qui donne, en gros, ce qui a donné, électoralement, un tiers de voix pour la gauche électorale, on va dire. Là aussi, sans rentrer trop dans les détails.
Et un tiers pour l'extrême droite.
Et un tiers pour l'extrême droite, tout à fait. Alors ça, c'est la partie qui est la partie électorale. Je pense que l'angle mort des analyses, la plupart du temps, faites par les commentateurs politiques qu'on voit dans les médias, qui eux-mêmes sont partie prenante de cette espèce de monde qui se petit à petit s'éloigne du pays réel, je pense. L'angle mort, c'est les gens qui ne votent pas, qui ne votent plus, une bonne partie des jeunes, une partie des électeurs de gauche qui s'étaient des électeurs de gauche, là aussi, on utilise des catégories molles, mais qui là s'étaient mobilisés. Et c'était pas gagné. Moi, j'ai y compris rencontré des gens qui étaient partis pour ne pas voter, mais qui là se sont bougés. Je pense que nous nous engageons vers une voie qui est une voie qui est assez sombre, parce que le déni de démocratie, cette impression d'un rouleau compresseur qui fait que quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, c'est comme ça que ça passera, et pas autrement. Autrement dit, le système de régulation de la violence sociale, qui est le système politique qui permet de transformer la violence sociale en conflit politique, est en train de dérailler. Et quand on n'arrive pas à gérer correctement les règles du jeu du système de conflit, on retourne dans la violence. Je crains, sans vouloir jouer les Cassandres, que l'avenir, et assez rapidement, va hélas me donner raison sur le fait que la violence va monter, et ça commence.
C'est un constat très pessimiste.
Ah, c'est un constat, mais il n'est pas au fil, ça vaudrait le coup, bon, sans faire de narcissisme trop développé, ça vaudrait le coup qu'on reprenne nos émissions au fil qu'on a eues au fil des mois, dans lequel j'ai eu l'impression, je sais pas vous Jacques, mais que on n'a jamais été dans un pessimisme, dans un optimisme croissant. Le ça va mieux a toujours été beaucoup et chaque fois plus difficile. Voilà. Je vois pas comment on peut arriver à avoir un pays qui est un pays qui ne va pas sombrer dans la violence, dans le clivage. Avec un déni de démocratie comme celui-là, fut-elle imparfaite, et je suis extrêmement critique sur le système démocratique tel qu'on l'a, mais là, pour le coup, c'est quasiment les jeunes diraient du foutage de gueule, hein, et ça va se payer.
Ça veut dire quand même que nous avons des hommes politiques qui ne sont pas très responsables. Ça veut dire aussi que les partis politiques ne jouent pas leur rôle. Peut-être sont-ils trop obnubilés par la présidence de la République, parce qu'ils ne pensent qu'à ça, de toute façon.
La prochaine
élection.
Oui, la présidence de la République, les responsabilités. Ce raisonnement-là qu'on fait, alors ça, c'est la dimension qui est la dimension 5e République, hein, où bien sûr, l'élection cardinale, c'est l'élection du président de la République, qui, parce qu'il est élu au suffrage universel en plus, a le top de la légitimité, avec de la traduction concrète qu'on peut en avoir au niveau de la Constitution. Mais c'est valable aussi à l'échelle des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on a des partis politiques qui sont des machines à gagner des postes et qui ont fait l'impasse. Il y a certains partis politiques dont quasiment la majorité est constituée de gens qui sont soit des élus, soit leurs obligés. C'est-à-dire les fonctionnaires territoriaux qui dépendent, dont la carrière dépend des gens qui sont élus. Ça devient extrêmement malsain. Donc c'est bien sûr les élections à venir et les règlements de compte sur les élections passées qui font l'agenda, effectivement, des partis politiques. Et il n'y a qu'à voir quand la gauche... Je ne peux pas m'empêcher de trouver ça désespérant quand l'espèce pantalonnade à laquelle nous avons assisté sur le choix du Premier ministre du nouveau Front populaire. On en sort, là. Hein. Il a fallu chercher une illustre inconnue que je ne connais pas du tout, qui est directrice des affaires financières de la ville de Paris.
Ou plutôt qu'il était, parce que je crois que Madame Hidalgo l'a un peu poussé dehors.
Voilà, oui, tout ça dans une ambiance saine et fraîche camaraderie. Tout à l'heure, vous avez évoqué Cazeneuve. Bon, que Cazeneuve ait été hué, on pourrait en dire plein de choses, mais ce qui est sûr, c'est que c'est certainement pas quelque chose qui serait... à l'image de ce que demanderait le renouvellement du jeu politique. On a affaire à un retour de gens qui se sont illustrés, qui fonctionnent dans ce genre de choses-là. C'est ça qui, je trouve, est très dangereux. C'est-à-dire que les partis politiques qui, d'une manière ou d'une autre, permettraient de réfléchir et de transformer en stratégie collective, de se former aussi pour sortir des débats qui sont des débats assez archaïques tels qu'en règle générale on les a, y compris sur les zones de la Maison Bolloré, voilà, pour avoir ce qu'on appelle une conscience politique, ne remplissent plus leurs fonctions et que je crois réellement qu'on va le payer. Pour autant... Le pays, entre guillemets, réel, n'est pas complètement inerte. Moi, il me semble qu'il se passe des tas de choses à peu près partout, avec des tentatives pour faire avancer la société, mais à des années-lumière du jeu qui est le jeu politique actuel institué.
Oui, bien sûr, on n'arrive pas à rapprocher ces deux mondes. Qu'est-ce qui va se passer? On va dans l'impasse. On est dans une impasse aujourd'hui. Et on est dans, parlons du budget. On sait qu'on a un déficit colossal. On sait qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on augmente les impôts ou est-ce qu'on réduit les dépenses? Je crois que c'est le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Gallo, qui a dit hier, la question ne se pose pas, il faut faire les deux.
Oui, oui.
À voir. Les partis Macron a quand même, en baissant les impôts, supprimant la taxe d'habitation, en baissant d'autres, il nous a quand même privé, j'ai cru voir un chiffre de 50 milliards de recettes. Oui. C'est quand même gravissime.
Oui, oui. On est à l'os au niveau budgétaire, à partir d'une logique qui est une logique de... Alors, qui renvoie à repenser... la question du partage des richesses. Je veux dire, on n'est pas dans un pays qui est un pays par ailleurs qui est... on est dans un pays qui s'appauvrit, avec les indicateurs qui sont les indicateurs classiques de l'économie, le PIB ou des choses comme ça. Mais c'est bien, à un moment donné, la question de comment se repartage-t-on la richesse que nous produisons. Et on est à l'os au niveau budgétaire parce qu'on est confronté, on l'abordera quand on parlera de la question de l'Europe, le marché, c'est ça. Le marché, c'est ça. Le marché, c'est effectivement les stratégies qui sont les stratégies libérales et ultralibérales dans lesquelles on est, amènent à ce genre de choses-là. Et elles amènent au conflit. Et je crains que nous y soyons.
Alors les besoins sont quand même immenses. On sait que nous avons besoin de décarboner, que ça a un coût.
Oui.
Donc c'est quelques milliards par an, nous le savons. Nous avons un système de santé, on parlait d'être à l'os, là on y est pour le coup.
Ah oui, le service public de santé est complètement délabré.
L'éducation nationale est très mal et on sait que si on ne forme pas nos jeunes, peut-être les élites, les ingénieurs ou les penseurs de demain, on va se retrouver dans une situation extrêmement complexe. Comment va-t-on faire aujourd'hui? Nous avons le service de la dette qui nous coûte de plus en plus cher et peut-être qu'un jour, l'on ne nous prêtera plus parce que nous ne représenterons pas, la France ne représentera pas des garanties suffisantes. Tout ça est extrêmement soucieux. Mais est-ce qu'on est le seul pays à être dans cet état? Pas vraiment.
Non,
si on regarde
ce qui
se passe en Allemagne, c'est pas non plus très très brillant.
Bien sûr, c'est pas un hasard qu'on parle de la question qui est la question du rapport sur la situation qui est la situation européenne. C'est un choix qui a été fait à l'échelle européenne, qui est celle de on a fait un choix qui est un choix sur le modèle économique. Et j'imagine en se disant que le modèle politique suivra. Les fameuses vieilles lunes qui est de dire le marché amène la démocratie. Il amène la richesse, il amène l'abondance qui elle-même par ruissellement satisfait tout le monde et libère les énergies, les libertés et produit de la démocratie. C'est un truc qui marche pas. Les États-Unis. La comparaison entre les États-Unis et l'Europe est limitée au fait que les États-Unis sont par ailleurs, à l'échelle du casino mondial, joue en même temps à la fois le participant et le croupier du casino, ce qui n'est pas le cas de l'Europe.
Ah et non, ils ont le râteau à la main, hein, donc c'est eux qui ramassent.
Exactement, ils ramassent parce qu'y compris l'économie mondiale est construite à leurs mains. De ce point de vue-là. Et les règles du jeu sont telles qu'ils font d'une certaine manière ce qu'ils veulent, les Américains. Mais c'est de bonne guerre dans un système qui est un système libéral. Après tout, les égoïsmes individuels et collectifs priment. Bien joué, les gars. Mais
c'est quand même un pays qui souffre aussi. Les États-Unis est un pays très paradoxal. Certes, on a un bon niveau de vie, bien sûr. Pas tous. Oui. On attire beaucoup, beaucoup de capitaux, on attire beaucoup d'entreprises, mais ça ne va pas forcément dans le bon sens. Et la population américaine est dans un état assez pitoyable, globalement.
C'est le tour de passe-passe idéologique qui nous est servi, c'est de nous donner le modèle de la Startup Nation. Mais il m'arrive de rencontrer des gens qui sont des gens, comme on dit, de manière très, très surplombante de la France d'en bas à l'occasion d'activités diverses et variées associatives. Et donc, j'échange avec des gens qui ont parfaitement intégré le discours qu'on est en train de nous servir. Et vous savez, il suffirait de traverser la route pour trouver un emploi, l'énergie, etc. Je vais arrêter de citer des choses qui sont pitoyables, mais qui ont cette espèce de représentation qui est de dire, après tout, moi, si j'y vais, si je veux, si je peux, pour autant qu'on ne m'alourdisse pas des contraintes qui me sont imposées au bénéfice des autres qui sont des feignants. Et si je vais aux États-Unis, je suis sûr que je peux faire des choses là-bas, parce que c'est un pays de la liberté et de l'initiative. Que je ne ferai pas en France.
Ah, j'ai entendu notre prix Nobel d'économie qui est toulousain.
Monsieur Tirole.
Monsieur Tirole, voilà, qui était hier sur France Culture, hier matin, je ne sais plus, et qui disait, mais si j'allais aux États-Unis, on me ferait un pont d'or. Oui. Et j'ai voulu rester ici, j'ai voulu monter une école d'économie à Toulouse performante, elle est réputée, etc. Mais il disait bien quand même qu'il y avait une fuite des cerveaux, tout simplement parce qu'aux États-Unis, on avait déjà d'excellents salaires qui n'avaient rien à voir. On avait surtout les moyens de la recherche.
Oui.
On avait des laboratoires qui étaient extrêmement bien dotés et des projets qui étaient soutenus et qui ne tombaient pas dans les oubliettes parce qu'il y avait quand même une passerelle avec l'industrie, avec le commerce, etc. Toutes choses que nous n'avons pas ici.
Non, mais c'est un pays dans lequel, quand on est dans les wagons du train, pour lesquels ça marche, les États-Unis sont certainement un pays extrêmement agréable à vivre. Quand on est perdant, par contre, c'est une autre paire de manches.
Voilà, il faut être du bon côté du manche.
Et ça, en règle générale, on l'oublie. De la même manière que nos contemporains qui expliquent que si on libéralise à tout craint et si on se sortait du pognon de dingue que coûtent les services publics ou des choses comme ça, oublient ce qu'ils ont coûté en termes d'éducation, en termes de santé. Et ont intérêt à être et bien portant et être au bon endroit dans une société telle que celle des États-Unis. Voilà. Mais là aussi, je me dis que l'écart qu'il y a entre ce qu'on est en train d'essayer de vendre, alors de manière plus ou moins cynique, je suis toujours perplexe sur est-ce que vraiment ils y croient quand ils nous racontent ça ? Est-ce que le président de la République qui dit qu'il faut traverser la rue, vous allez voir, et vous allez trouver un emploi. Le fait par ignorance, cynisme, incrédulité, ou s'il abuse de promesses qui l'amènerait à dire des choses qui le dépassent.
C'est la question qu'on se pose aussi pour le pape. A-t-il la foi ou ne l'a-t-il pas?
Bon, oui, ne parlons pas des hommes d'église en ce moment. C'est... Et ce discours-là, qui ne marche pas, pour une bonne catégorie de gens, conduit encore une fois dans des impasses idéologiques et dans des choses qui sont de l'ordre, alors, de la violence encore socialisée par le vote de l'extrême droite, mais pendant combien de temps?
Alors après, est-ce que question quand même importante, est-ce que, quel que soit l'homme politique qui soit au pouvoir, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que véritablement aujourd'hui, dans un monde aussi comme globalisé, interconnecté, dans l'état de nos finances, est-ce que n'importe quel premier ministre aurait un impact positif pour le pays? Est-ce qu'ils ont les mains libres? Est-ce qu'ils peuvent véritablement appliquer? Monsieur Mélenchon, qui a cassé la gauche, a dit dès le lendemain des élections, le programme, rien que le programme, on sait que ce programme ne sera jamais appliqué parce qu'il ne peut pas l'être. Techniquement.
C'est là où il y a un hiatus. Et pourtant, c'est ça qui fait que les gens ont aussi, se sont mobilisés. Donc, ce programme correspond quand même à quelque chose de l'ordre...
À une inspiration de tout
exactement.
Le monde.
Exactement.
À une inspiration forte.
Voilà.
Mais alors, pour autant, il est irréaliste. Dans l'état où nous sommes,
bien sûr,
financièrement.
Et c'est là-dessus que le moi, je me disais, ils veulent y aller, mais veulent-ils vraiment y aller tant,
mais non, ils ne veulent pas y aller, parce que si vous avez voulu y aller, il faut être un peu malin quand même.
Y aller pour quoi faire? Je pense qu'en l'occurrence, la situation est tellement bloquée...
Que personne ne peut rien faire.
Qu'effectivement, dans le cadre des règles du jeu qui nous sont données, effectivement, personne ne peut rien faire. Et je pense réellement que nous sommes dans une situation bloquée.
Et n'oublions.
C'est pour ça que je suis pour ça très à ma place, très modeste, assez inquiet sur ce qui se profile.
N'oublions pas que l'Europe a aussi déclenché une procédure de surendettement et que nous devons rendre notre copie très bientôt. Je ne sais pas si nous l'avons fait, certainement pas, puisqu'il n'y a personne le faire, en expliquant comment on va arriver à alléger le poids de notre dette.
Et c'est l'éléphant dans la salle à manger, ça. Cette question de la dette et cette question du à un moment donné ou à un autre, il va falloir passer à la caisse. Tout le monde sait qu'elle est posée. Et même mon petit doigt me dit, mais pas que mon petit doigt, que ça travaille un peu du côté des gens qui sont un minimum, si ce n'est aux affaires, du moins préparent des décisions pour les gens qui sont aux affaires. Et que ce fric-là, il va falloir bien arriver à le trouver quelque part.
Il y a des gens plus endettés que nous. Le Japon, il y a des pays, pas des gens, mais des pays. Le Japon est infiniment plus endetté que nous.
Oui, ben en plus, il est infiniment plus vieux.
D'abord plus vieux, mais à part que la dette du Japon est détenue en grande partie par des Japonais, ce qui n'est pas du tout notre cas. Ce sont des créanciers extérieurs.
On sait où est l'argent. Une partie de l'argent disponible est en épargne aujourd'hui. En France,
600 milliards,
voilà.
C'est ça, je crois.
L'argent est entre les draps de lit, comme on dit. Alors, on ne fait plus comme ça. Nos grands-parents faisaient ça. Ils mettaient les sous et les emprunts russes, les malheureux, entre les piles de draps. Mais voilà. Donc, là aussi, c'est une espèce de quadrature du cercle qui est très compliquée à faire. Une des solutions, c'est l'emprunt.
On a déjà beaucoup emprunté, on a eu de charges.
Et une autre solution, c'est effectivement l'emprunt volontaire. C'est pour ça que je parle des emprunts russes. Voilà. Mais pour ça, il faut de la conscience politique. C'est-à-dire, il faut amener à ce que les Françaises et les Français, une partie des Européens, pas tous, mais suivant les pays, sortent le bas de laine pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, réinjecter dans l'économie les richesses qui sont les richesses de côté. Mais pour ça, il faut avoir de la conscience politique pour faire ce genre de choses-là. Je ne sais pas aujourd'hui Quel est le niveau de confiance qu'on peut avoir ou qu'ont mes compatriotes dans les gens qui sont aux affaires? Mais moi, personnellement, je veux dire, j'en ai très, très peu.
Voilà. Non, ça, je pense que tout le monde a compris que nous en avons peu. Mais bon, peut-être que Barnier, qui est quand même conscient de la situation, il a dit, attention, les caisses sont plus que vides, on racle. Et de suite, le parti macroniste, M. Darmanin en tête, d'ailleurs, qui essaye de continuer à exister, a dit, ne touchons pas aux impôts, pas d'impôts nouveaux. Et pourtant, il y a une fraude fiscale importante en France. Alors, très curieusement, on a des services fiscaux, mais chaque fois qu'on lève un lièvre, c'est des groupements de journalistes qui, eux, trouvent où se trouve l'argent, hein, qui vont le dénicher dans les paradis fiscaux et qui font des articles là-dessus, alors que nous avons des services secrets qui pourraient s'y employer. Nous avons des services fiscaux qui pourraient aussi, peut-être... Et puis,
ils sont mal informés, peut-être.
Oui, ils doivent être mal informés. Enfin, là, on a quand même... On est peut-être à l'os, mais on n'a pas peut-être gratté là où il fallait. Ah. Et donc, il faudrait aller gratter là où il faut, sachant que certains... dégagent des fortunes et des revenus considérables qui ne sont pas taxés ou qui sont très sous-taxés et d'autres qui s'évacuent, à commencer par certaines grandes entreprises françaises où parfois l'État est associé et qui ont leur siège social au Luxembourg.
Voilà,
c'est un peu gênant.
C'est bien la question du partage de la richesse et des modalités de répartition auxquelles on est effectivement confronté. Et je crois qu'on touche à ça. Ils entre guillemets, ne veulent pas y toucher. C'est ce que vous évoquez, c'est que dès qu'on parle de ce genre de choses, on a des cris d'orfraie. Ça va se tendre. Ça va se tendre.
On n'arrive pas à avoir de solution. On voit bien les problèmes aujourd'hui, on les cerne à peu près. On voit qu'il y a quand même quelques pistes, on vient d'en évoquer quelques-unes très grossièrement, mais le personnel politique, apparemment, ne veut pas aller vers ces pistes-là. Alors, s'il n'en trouve pas d'autres qui soient supportables, comme vous le dites, peut-être qu'on va tomber dans une espèce de chaos violent.
Oui, d'autant que c'est la vie de tous les jours, je trouve, qui aujourd'hui, maintenant, est impactée. C'est-à-dire que ça devient compliqué de prendre le train. Ça devient compliqué, ça devient hasardeux d'inscrire son enfant à l'école sans avoir la trouille ou sans avoir un peu de réticence sur ce qui va s'y passer. Quand on est malade, on finit sur un brancard dans le couloir de l'hôpital. Bref, on n'est plus dans ce qui était de l'analyse critique, de la dénonciation, qui fut une époque dans laquelle on disait « attention, c'est en train de se délabrer ». Là aussi, on est à l'os.
Et en plus, cerise sur le gâteau, nous apprenons que certains grands Français que nous avons adulés, par exemple l'abbé Pierre, était en réalité un personnage assez peu recommandable dans le privé.
Oui, mais ça c'est
tout s'écroule.
Après, il me semble une autre question, qui est la question du... bien sûr que l'abbé Pierre, bon, voilà, c'est mais moi, ce qui me pose question, c'est l'adulation. C'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir à un moment donné. On est vraiment dans une autre... Il me semble qu'on est... Alors, si elle est connexe avec celle qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que les grandes figures et la confiance qu'on peut avoir sur un certain nombre de choses, effectivement, en prend à peu près à tous les étages, y compris à cet étage-là, qui est celui des grandes figures charitables, etc., etc.
Ce qui n'a pas empêché qu'il l'a été, qu'il a créé quand même un mouvement.
Bien entendu.
C'est Janus.
Bien entendu, c'est pour ça que la question, moi, que je trouve, qui est posée là-dessus, qu'est-ce qui a pu amener bon nombre de nos contemporains à mettre sur piédestal un personnage qui est un être humain comme un autre, avec plein de trucs.
Qui effectivement s'est dépensé et qui a créé, qui a apporté à beaucoup, peut-être un peu de sécurité, peut-être des toits, peut-être. Il a eu une réelle action par ailleurs. Dans le Prébert, on en a connu d'autres. Il y en a un qui était, je crois, aux États-Unis, là. Vous savez, M. Strauss-Kahn, qui était quand même un économiste et un homme qui était très bien cortiqué. Mais bon, voilà. Il avait aussi une face sombre.
C'est sur la question d'une société qui n'a, entre guillemets, plus confiance dans un certain nombre de choses, de valeurs ou de personnages. Ce qui rend effectivement l'avenir difficilement envisageable et les risques collectifs à prendre ensemble. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Est-on encore en capacité de se lancer dans des prises de risques et on en a des énormes qui sont des prises de risques vitales autour de, on parle de la survie de la planète aussi, hein, je veux dire, ça demande d'avoir une confiance réciproque commune pour que ça... Et ce qui aussi tend les choses... C'est l'impression que les décisions qui sont prises par des gens à l'égard desquels on a relativement peu confiance continuent à fonctionner comme si de rien n'était. Hein? C'est-à-dire qu'on n'a plus de prise sur un certain nombre de décisions prises. On en parlera ou je l'évoquerai peut-être tout à l'heure, mais les grands travaux dits d'intérêt public... qui sont en fait, quand on va y voir de plus près, sont pas tant d'intérêt public que ça, ou du moins ça se discute, sont mis en œuvre et qui demanderaient à ce que les citoyennes et les citoyens aient confiance dans le projet et soient aussi associés à la prise de décision. Je pense aussi que c'est un des aspects de la crise actuelle. On a aussi une partie de nos concitoyens et nos concitoyennes qui sont plus tellement prêts à borner leur action politique au fait de voter une fois et ensuite d'accepter tout ce qui est décidé par les gens qu'on a élus. C'est une évolution qui est plutôt positive, celle-là d'ailleurs. Hein. Et là aussi, on est quand même confronté à un grand écart qui nous amène à une situation compliquée entre la politique telle qu'elle est faite et la manière dont elle est vécue. Et subit.
L'imagination du peuple se fera un préjugé de la liberté, l'illusion sera une patrie d'en revient, c'est juste.
Voilà. Mal finir.
Absolument. Nous passons à notre deuxième sujet, donc l'Europe et le rapport Draghi. Alors, vous le savez, deux rapports. Hein. Il y a eu le rapport Draghi, mais il y en a eu un autre avant. On soulignait la perte de vitesse de l'industrie européenne par rapport à celle de la Chine ou des États-Unis. Les deux rapports constatent que le principal moteur de ces évolutions divergentes, eh bien, ça reste la productivité. Alors, le premier rapport, c'était celui commandé par le Conseil européen à M. Enrico Letta, qui a été publié en avril 2024, c'est pas si vieux. Et le deuxième rapport commandé par la Commission européenne, c'était celui élaboré par Mario Draghi sur la compétitivité. Alors, selon ce rapport, et je cite, les valeurs fondamentales de l'Europe sont la prospérité, l'équité, la liberté, la paix et la démocratie dans un environnement durable. Il y a beaucoup de choses là-dedans. L'UE existe pour garantir que les Européens puissent toujours bénéficier de ces droits fondamentaux. Et le rapport met aussi l'accent sur le nouveau contexte mondial auquel l'Europe doit s'adapter. Alors, citons-en trois éléments de ce contexte mondial. Un commerce mondial en recomposition. Une énergie russe bon marché qui n'est plus disponible depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire en février 2022. Et une protection sécuritaire américaine qui semble moins garantie qu'auparavant et qu'il sera encore moins si M. Trump revient à la Maison-Blanche.
Là, on le sait.
Donc, l'Union européenne, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça va nous obliger à un peu prendre nos responsabilités plutôt que de se reposer sur les États-Unis avec les contingences que l'on sait, parce que qui paye commande, hein, on l'a dit.
Soyons prudents sur les conséquences positives d'une élection de Trump.
Oui,
T'as la capacité de nuisance dépasse tout.
Oui, absolument. Et même en commençant d'ailleurs pour son propre pays et ses propres concitoyens. Alors Draghi nous dit, propose trois axes principaux pour réformer, relancer la croissance durable. D'abord, innover et combler le retard technologique, qui est effectivement très important avec les États-Unis. On a aucune grande société aujourd'hui comme Google ou comme Amazon ou autre. Avoir un plan commun pour la décarbonation et la compétitivité. Et renforcer la sécurité et réduire les dépendances. Et puis le rapport formule 170 propositions. On ne va pas les citer ici. Vous avez ce rapport qui est en ligne. Alors, il n'est pas traduit d'ailleurs, hein. Il est en anglais. Je ne l'ai pas trouvé en français. Mais globalement, c'est accroître l'innovation. Donc il faut doubler le budget du programme cadre de recherche et d'innovation pour le porter à 200 milliards d'euros sur 7 ans. Harmonisation juridique aussi, créer un nouveau statut d'entreprise européenne innovante, unifier le droit des sociétés, toute chose qui aurait dû être faite depuis très longtemps, développement de l'intelligence artificielle, la transition écologique, réformer le marché de l'électricité, découpler la rémunération des énergies renouvelables et du nucléaire, de celle des énergies fossiles, souveraineté stratégique, donc il faut créer une plateforme pour sécuriser les approvisionnements en matière critique, et puis simplifier l'administratif, nommer un commissaire européen à la simplification. Celui-là, s'il est un jour nommé, il ne chômera pas. Hein, voilà. Bon, il faut soutenir, on a compris, on pêche un peu de partout, énergie, matériaux critiques, digitalisation et technologies de pointe, les industries à forte intensité énergétique, les technologies vertes, l'industrie automobile, aujourd'hui qui se gratte la tête en se posant beaucoup de questions, comment va-t-on arriver à faire la voiture électrique? On est déjà noyé par les voitures électriques chinoises, faut-il les taxer? La défense, l'espace, l'industrie pharmaceutique, les transports, bref, on a l'impression un peu que tout est à reprendre détail.
Ça prend l'eau de partout.
Oui, c'est un peu l'impression que ça donne. Oui, oui, oui. Et donc, il y a un chantier considérable. Et en plus, un chantier qui nécessite de l'argent. On vient de voir que nous, on n'est quand même pas au mieux là-dessus. Les Allemands ont certainement beaucoup plus de moyens financiers que nous. Mais si on regarde les autres pays européens, ils ne sont pas non plus extrêmement argentés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce rapport l'État, qui est très intéressant, qui pose... Il ne donne pas forcément de recettes, mais au moins, il pose le diagnostic.
Oui, oui. En plus, quand j'ai les entre guillemets, experts, par ailleurs les plus critiques qu'ils peuvent avoir sur le fonctionnement économique de l'Europe, trouvent même ce rapport relativement intéressant et réaliste. Je veux dire, c'est ce qui montre bien que il y a certainement quelque chose de l'ordre du vrai là-dedans. Mais c'est vrai qu'on reste perplexe. Alors, on reste perplexe devant avec un raisonnement qui est un raisonnement simple voire simpliste, qui est de dire comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, et en reprenant un peu la phrase de Einstein, comment imaginer que les gens qui sont à l'origine...
du problème peuvent être la solution.
Peuvent être ceux qui vont être à l'origine de la solution. Ouais. Et moi, c'est un peu le réflexe que, très modestement, je ne suis pas du tout économiste, moi, donc j'y vais toujours avec les patins.
Ah, c'est là où Pierre Larouille nous manque.
Bien entendu, mais on ne serait peut-être pas d'accord, mais c'est vrai. C'est
l'économie lacanienne...
C'est une économie, moi, que je pratique peu, mais voilà. La crainte qu'on peut avoir de ça, c'est qu'effectivement, il reste comme étant une... Voilà, une...
Une lettre morte.
Une lettre morte comme cette mise à plat de la situation. Il y a des gens ont tiré la sonnette d'alarme depuis un moment quand même sur cette question.
Oui, dans le rapport l'État, il n'y a rien. On n'a pas découvert quoi que ce soit.
Bien sûr.
On a juste
mis bout à bout.
Voilà, on a un catalogue intelligent, fait.
Oui, systémique.
Systémique, mais on n'est pas tombé de la chaise en disant ça, on ne l'avait pas vu. Le savait depuis tout. Par contre, on compare aujourd'hui la Chine, les États-Unis et l'Europe. C'est trois systèmes économiques et politiques complètement différents.
Alors, ça, c'est là. Oui.
Et donc. Bon, effectivement, il faut se comparer à ceux avec qui nous vivons, nous échangeons, nous commerçons. Pour autant,
comparaison n'est pas raison. Dans la conversation précédente, qui est que bon, les États-Unis n'ont pas le même statut à l'échelle internationale que quelque chose comme l'Europe, et que la comparaison vaut ce qu'elle vaut, pour autant que la marge de manœuvre n'est pas forcément la même entre, par exemple, nous deux, mais entre l'Europe et les États-Unis. Donc en gros, la conclusion quand même, moi je l'ai pas lu dans le détail, mais j'ai lu des choses de gens, comme on dit, autorisés, à qui je fais confiance là-dessus. Encore une fois, je l'ai pas fait parce que je n'en ai pas les éléments de théoriques suffisants, mais ça renvoie quand même à une très forte capacité de décision politique à la sortie. En gros. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des politiques européennes qui soient des politiques fortes, maîtrisées, et parce que tout ce que vous y êtes évoqué en termes de préconisation à la sortie, ça ne va pas se faire comme ça, d'un claquement de doigts. Ça veut dire que ça va venir à l'inverse, y compris de tendances qui sont des tendances lourdes. Et on sait que ça nécessite un poids politique assez fort pour que ça puisse être mis en œuvre.
Poids politique, on n'aura plus forcément, avec la montée quand même assez généralisée de l'extrême droite.
Oui, qui elle est dans le déni d'une bonne partie de ce rapport-là.
Voilà, donc comment, alors qu'on ne partage pas la même vision des choses, comment peut-on prendre des décisions fortes? On voit mal comment ça peut aboutir. Et donc on en revient au même constat que dans le premier sujet, en disant on voit bien les problèmes, ils sont bien cernés, ils sont bien documentés, mais on ne voit pas comment et qui peut apporter le remède.
Oui. Et là, on paie... Alors bon, ça fait c'est un peu limité de dire ça, mais ça montre bien que cette idée, encore une fois, qui est de dire si on arrive à organiser un marché, une concurrence non faussée, ça va nous permettre d'aborder les grands défis qui sont les grands défis du moment. C'est encore une fois, c'est un truc qui marche pas. L'Europe politique n'existe pas. On n'est pas allé. On n'a pas voulu aller là-dessus, à constituer... on est toujours au milieu du gué au niveau de l'organisation politique du système européen. Et on est aujourd'hui, je trouve, un petit peu démuni. D'autant que, pour le coup, cette distance qu'il peut y avoir entre, qu'on a évoquée à l'échelle nationale dans le premier sujet, c'est-à-dire entre... Les citoyens, en l'occurrence européens, sont encore, j'ai l'impression, et moi je le vis comme ça, sont encore plus à distance des lieux de décision politique européenne que les citoyens français sont à distance des lieux de décision politique nationale. Mmh. Donc ça rend les choses encore plus complexes. Parce que ça va demander... Alors, on va être churchillien, puisque ça a déjà été évoqué. Hein. Ça va demander un peu de sang, un peu de larmes, quand même.
Tout à fait. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir des hommes politiques qui soient véritablement des hommes d'État, pas des politiciens ou des politicards, on en a beaucoup, uniquement préoccupés par leur carrière personnelle et leur prochaine réélection. Et on a l'impression aujourd'hui, enfin moi je suis très pessimiste sur ce personnel politique, on a l'impression qu'ils ne sont vraiment pas à la hauteur ni intellectuelle ni technique des défis que nous avons devant nous.
Ils sont adaptés au système politique tel que nous le connaissons, me semble-t-il, et qui est complètement à bout de souffle. Il y a bien sûr, là, alors bon, c'est un vieux débat qu'on a en permanence, il y a bien sûr la dimension qui est dimension... personnelle des gens dont on peut, à un moment donné... c'est déjà là, c'est un bon nombre de personnes avec qui je ne partirai pas en vacances, pour le dire comme ça. Voilà. Mais ni je ne passerai pas des soirées amicales. Mais ils sont aussi le produit de ce qui les a fait, de ce que nous en avons fait, y compris nous-mêmes, en jouant un certain nombre de choses. Et à l'État, les personnages providentiels qui seraient, avec un peu plus d'honnêteté, un peu plus de vision, des choses comme ça, je ne sais pas, au regard de la situation très compliquée dans laquelle on est, ce qui pourra mener de plus. On ne pourra pas faire, me semble-t-il, l'économie de faire bouger aussi le système. C'est pas une vie.
Bon, nous voilà très pessimistes. Ce rapport, l'État, quand même, le mérite un peu de, s'il ne fait pas bouger les lignes, de secouer un peu les gens en leur disant maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. C'est déjà ça. Passons à nos dernières rubriques de fin d'émission, les brèves. Jean-François, une brève ?
Oui, une brève. Elle est un peu locale, mais elle touche à ce qu'on a évoqué un peu précédemment. Elle s'appelle Alexandra. Elle habitait à Verfeil, était locataire depuis 13 ans à Verfeil, d'une villa avec sa famille. Et elle vient de jeter l'éponge. Elle s'opposait au fait d'être expropriée pour le passage de l'autoroute A69. Elle vient de jeter l'éponge. On parlait de violence tout à l'heure. Je parlais de violence. Hein. Après deux tentatives d'incendie de sa maison par des milices privées qui n'admettaient pas le fait qu'elle ne veuille pas partir au regard du projet qui va être mis en œuvre. Donc l'A69 continue, l'A69 qui est censée relier Toulouse au Tarn, continue, les bulldozers continuent à avancer. Quatre chutes, des arbres ou des plateformes dans les arbres ces derniers jours, quatre chutes dangereuses avec une fracture de la colonne vertébrale. La presse a été très discrète dessus, notamment la presse régionale, je ne citerai pas de nom. ces chutes ont été provoquées par des membres des forces de l'ordre. Dans un premier cas, on a des milices avec des gens cagoulés qui mettent le feu à la maison. Dans un autre cas, on a des forces de l'ordre spécialisées. Voilà, c'est une brève. La 69, ça continue. La course contre la montre entre des gens qui se mobilisent et une volonté politico-administrativo-judiciaire est en cours. Il faut continuer à le suivre. C'est un peu emblématique de tas de choses qu'on vient d'évoquer.
Et on voit quand même que le personnel politique local, il y en a souvent abordé ce sujet sur cette antenne, le personnel politique local soutient ce projet, ou tacitement, ou activement. Mais c'est des gens qui se battent pour un projet qui a été imaginé il y a 30 ans, qui est complètement daté, complètement hors sujet aujourd'hui. Et on a souvent dit ici, même avec des techniciens, hein, dans l'émission notamment Arcania, la dernière, que j'ai faite, on remonte pas si loin, où nous avons évoqué, avec une spécialiste d'entomologie, nous avons évoqué tout le mal qu'elle en pensait aussi, toute la communauté scientifique a dit tout le mal qu'en pensait. Rien ne bouge pour autant, rien ne se fait, aucune personnalité politique n'est montée au créneau. Alors quand on en parle à certains, oui, ils sont un peu dérangés quand même, ils sont un peu gênés. Hein. Ils trouvent pas ça très propre, mais aucun ne monte au créneau pour dire haut et fort, stop, il faut arrêter. Et notamment pas la présidente de région qui était remarquablement discrète sur le sujet.
Qui est bien entendu contre tout les violences, on n'en attendait pas moins.
D'elle, voilà. Donc une autre brève, alors moi je ne vais pas être local, quoique, parce que nous avons une forte communauté en France, et ici aussi bien sûr d'Algériens, et donc le président Tebboune a été réélu avec un score soviétique, 94% quand même.
Limite Corée du Nord.
Des voix, voilà, presque, hein, ramené après quelques ricanements à 84% par la Cour constitutionnelle, il a dit il faut quand même sauvegarder les apparences.
Respecter les formes.
Et puis une participation des plus réduites, estimée par certains entre 10 et 25%, donc c'est vraiment pitoyable. Un président, on le sait, qui est un haut fonctionnaire et un vieux fonctionnaire du pays qui n'est qu'une marionnette entre les mains des militaires, hein, qui ont mis le pays en coupe réglée. D'ailleurs, dès qu'il sort, il est flanqué par des militaires. Des opposants en prison, une presse muselée, une petite partie de la manne gazière qui sert à acheter la paix sociale, le reste allant dans des poches qui ne sont certainement pas celles de l'État.
Des poches d'uniforme, on dirait.
Voilà, exactement. Et des relations glaciales avec la France, alors surtout depuis que celle-ci a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Est-ce que dans ces propos pessimistes que nous tenons et dans cette actualité très sombre, vous avez réussi à trouver un « ça va mieux » pour nourrir notre avant-dernière rubrique ?
Nous en parlions hors micro, ça devient chaque jour plus difficile. Oui, j'ai un tout petit « ça va mieux », mais c'est vraiment, il faut que j'ai tiré un peu sur les bords pour que ça... Ça va mieux parce qu'on se rend compte que le service national universel, c'est vraiment du grand n'importe quoi. La Cour des comptes vient de remonter les bretelles au gouvernement. Petite plaisanterie qui est censée nous coûter 160 millions d'euros quand même, hein, le Service national universel. Hors contrôle démocratique, tout ça a été décidé directement par les ministères. Il n'y a jamais eu un vote en quoi que ce soit par les représentants de la nation. Voilà. La Cour des comptes dit en gros ce machin, je caricature, mais c'est pas très loin quand même, j'ai regardé un peu, c'est vraiment n'importe quoi. Ce qui s'y fait ne ressemble à rien. Le budget est même pas liquidé, fait même pas consommé. Mais ce qui est consommé est fait de manière absolument inconséquente. Et en plus, la volonté d'envoyer des jeunes lycéennes et lycéens ou jeunes mineurs dans quelque chose qui ressemblerait à un service national civil et non militaire pose de gros problèmes de légalité puisque la Constitution ne permet d'entraver la liberté de circuler des personnes que pour des raisons réellement militaires. Donc voilà, tout ça peut-être, j'en sais rien, est en train de se dégonfler, je l'espère, mais déjà la Cour des comptes a mis un coup de semonce. Voilà.
Alors moi je vais vous amener, pas très loin en Europe, mais ça nous concerne, je vais vous amener à Bruxelles pour parler de la décision de limiter la quantité de nickel qui est autorisée dans nos assiettes. Le 30 juillet, la Commission européenne a en effet fixé pour ce métal lourd, hein, on connaît les dangers, des teneurs à ne pas dépasser. Alors, dans une flopée d'aliments, je vous les cite, céréales, légumes, cacao, pâte à tartiner au chocolat, arachides, graines de tournesol, pois, les petits pois, les herbes fraîches, les fèves de soja, les algues marines, les jus de fruits, les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches. Oh, tout le monde est concerné, là, parce qu'on a au moins une fois dans notre vie, sinon plusieurs fois, mangé de tout ça. Donc, ça fait quand même très longtemps que les toxicologues tiraient la sonnette d'alarme sur les risques encourus lorsqu'on avalait du nickel. On n'est pas dimensionné pour ça. Oui. Alors c'est un peu une tuile pour l'industrie de la meunerie qui a bien sûr posé de tout son poids pour décrocher un an de rab sur les autres, hein, en disant il faut nous sauver. Donc jusqu'au 1er juillet 2026, Kellogg et consorts ne seront pas limités en nickel dans leurs boîtes de cornflakes, muesli ou autres flocons d'avoine, en plus de tous les problèmes que ça peut avoir sur la santé, sur l'obésité, etc.
Ça va mieux pour eux, donc.
Oui, donc ça va mieux pour eux. Ils ont quand même réussi à gratter un peu une année. Et puis très curieusement aussi, les brasseurs qui ont obtenu pour leur breuvage, qui sont quand même pourtant à base de céréales. Bon, on sait que ces céréales-là, d'ailleurs, avec le cacao, font partie des plantes qui siphonne le nickel dans le sol, parce que le nickel qui est présent naturellement, hein, dans la croûte terrestre, mais ces deux plantes le pompent allègrement. Voilà, je vous renvoie pour plus de détails à l'article « Tout est nickel, conflit de canard, du canard enchaîné ».
Tout ça est nickel.
Tout ça est nickel, mais bon, une petite avancée sur l'agro-industrie qui prétend nous nourrir et qui, bien souvent, nous empoisonne, il faut quand même bien le dire. Je vois parfois passer, d'ailleurs, sur Facebook, défendons nos agriculteurs, ils nous nourrissent. Non, c'est pas eux qui nous nourrissent, c'est l'agro-industrie, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Et qui est une drôle de nourriture.
Voilà, mais il n'y a qu'à regarder l'état de santé global et l'état des Français, et l'état de l'obésité d'ailleurs, hein, qui augmente de façon très inquiétante dans le monde entier, à commencer par les États-Unis aussi, qui sont eux aussi bien servis sur ce côté-là. Allez, on finit par les conseils culturels. Moi, j'en ai plein, mais allez-y.
J'en ai deux rapides. Un livre, je ne vais pas me faire que des amis. Les derniers jours du Parti Socialiste, d'Aurélien Bélanger.
Oui, je l'ai vu.
Aux éditions du Seuil. Ouais. Lisez-le. Alors, c'est un roman, c'est un roman à clé, comme on dit. Hein. Vous y découvrirez des personnages. Plupart peu recommandables.
Mais reconnaissables, par contre.
Mais reconnaissables si vous vous intéressez notamment à l'histoire du printemps républicain, qui est un lobby laïco-laïcard qui s'est plu comme plu à l'intérieur du Parti socialiste. Et voilà, c'est un côté... à la fois, ça a le vantage d'éclairer d'une lumière crue des gens qui œuvre plutôt en règle générale dans l'ombre, hein. et en même temps c'est assez plaisant à lire, voilà, parce que c'est toujours le charme des romans à clé. Et puis bon, un truc qui a absolument rien à voir, mais parce que voilà, c'est un coup de cœur, parce que je les aime beaucoup. C'est, ça se passe le 29 septembre au Bikini à Toulouse, et c'est Massila Sound System qui est un groupe maintenant âgé de ragamuffin marseillais qui passe. Il ne faut jamais les louper, parce que c'est une soirée qui est toujours une soirée très très agréable, et en plus, en règle générale, ils offrent le pastis.
Oh, alors, nous y serons. Alors, pour ma part, oui, moi, j'en ai quatre, hein, donc je vais être abondant, mais rapide. Alors, toujours dans l'idée de se faire des amis en citant des livres, « Au lien qui libère » de François Ruffin, « Itinéraire, ma France en entier, pas à moitié », 154 pages, 12 euros, c'est abordable. Très intéressant de voir, par quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, comment fonctionne la secte de Monsieur Mélenchon.
Autre... C'est dans la série « Faites-vous des amis ».
Oui, voilà. Autre titre, et finalement ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, et c'est pas innocent si je l'ai mis là, c'est « À lire ou à relire », l'essai de Jacques Ellul sur l'illusion politique aux éditions de la Table Ronde. Alors, Jacques Ellul est mort en 1994 à Pessac, un historien du droit, un sociologue, professeur d'histoire du droit, surtout connu comme penseur de la technique et de l'aliénation au XXe siècle, hein, auteur d'une soixantaine de livres très traduit beaucoup à l'étranger, notamment d'ailleurs aux États-Unis et même en Corée du Sud.
Et Lulle fait partie de ces gens qui sont plus connus à l'étranger qu'en France.
Oui, ce qui est dommage parce que quand on le lit, on se dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr comme le commissaire Bourrel.
Ça a été un des penseurs à l'origine d'une partie du mouvement écologiste en France.
Voilà, et il nous parle dans ce livre d'une double illusion, de ce qui lui donne naissance, développant de l'illusion de l'homme politique qui croit maîtriser la machine de l'État, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui croit prendre des décisions politiques toujours efficaces, alors qu'il est de plus en plus impuissant en face de la rigueur croissante des appareils étatiques, et puis réciproquement, l'illusion du citoyen qui vit encore sur l'idéologie de la souveraineté populaire et des constitutions démocratiques, ce que vous disiez tout à l'heure Jean-François, et qui croit pouvoir contrôler la politique, l'orienter, participer à la fonction politique, alors que tout au plus, il peut contrôler des hommes politiques sans pouvoir réel. Et donc, il y a une double illusion et un dialogue d'impuissants. Lisez l'illusion politique, c'est vraiment fabuleux. Ça date pas d'aujourd'hui, on dirait qu'il l'a écrit hier, comme la plupart d'ailleurs de ses ouvrages. Après, puisque j'ai dit que je serai abondant, je vous convie le 24 septembre à 22h30 à aller voir sur Arte un documentaire de Jérôme Sesquin et de Nizan Perelman qui nous parle de deux ministres aujourd'hui qui sont Ben Gvir, je ne sais pas si je prononce bien, Bezalel Smotrich, qui sont ministres de M. Netanyahou, donc aux affaires aujourd'hui. Et alors, on cite Ehud Barak, qui est ex-premier ministre israélien. Vous vous souvenez d'Ehud Barak qui dit « Ces deux hommes sont des racistes et des criminels qui ont décidé d'éloigner Israël de sa vision démocratique et libérale pour en faire une société religieuse, fermée, messianique et autocratique. » Regardez l'actualité, on est en plein dedans.
Nous y sommes.
Je pense que ce sera un documentaire intéressant. Et puis, tiens, je viens de le recevoir, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais je suis sûr qu'il est bien fait. C'est Cécile Douel, une jeune autrice. C'est son premier livre. C'est un polar qui est publié par les éditions Kern dans leur collection « Du Noir au Sud ». Donc c'est presque pour moi spécial copinage. Ça s'appelle « Le sombre pacte ». Ça se passe au nord de Toulouse. Et on nous amène dans ces grandes fermes, vous savez, qui cachaient parfois de lourds secrets et puis un terreau fertile d'histoires de famille qui vont, on le sait chaque fois, faire naître un sombre pacte. Donc c'est le titre de ce livre de Cécile Douel. Eh bien, avec tout cela, vous avez de quoi vous occuper si vous trouvez que l'actualité est un peu débilitante et très attristante.
Il y aurait de quoi.
Il y a de quoi faire en se changeant les idées. Nous sommes au bout de cette émission, Jean-François.
Jacques.
Voilà, nous avons une pensée pour celui qui aurait dû être là, mais qui ne nous a pas quittés, mais qui n'est pas venu.
Nommé
Pierre Larouille. Voilà, c'était Ça va mieux, une émission de Jean-François Mignard et de Jacques Lavergne. Au bouton, nous avions Grégoire Naches,
qui a été très bon.
Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Et à très bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée à toutes et à tous. Et surtout, ne lâchez rien.
Jamais.